présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, sanctifié. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Je n'ai pas à te demander pardon. Le père fait le geste de lui donner un coup de ceinture. Charles se lève d'un bond et court à la sortie. Avant d'ouvrir la porte, il lui crie « Tu n'es qu'un fumier !» et il sort. Il marche pendant une heure au hasard. Il n'a pas envie d'aller chez sa copine. Gilles, c'est trop tard.
Oui, ma copine, c'est pas...
après une heure de marche, il décide de descendre dans le métro. Je réchauffe pour pouvoir dormir. Il va s'asseoir sur un banc. Autour de lui, quelques personnes qui attendent. Un groupe de jeunes étudiants, entouré d'une jeune fille qui mange des chips, chante à tue-tête.
C'est pas vrai?
Ah,
c'est
pas vrai,
c'est
un
train de s'amuser, c'est tout.
Ah,
bah, c'est un train de s'amuser. Adieu la jolie dame.
Oh,
il faut que je te montre dans l'acte. Adieu la jolie dame. Cette belle bouche qui croque des chips. Cette belle bouche qui croque des chips.
Bonsoir,
ma chérie.
Comment ça va?
Bonsoir.
Bonsoir, vous allez bien?
Très bien.
Bonsoir.
Oh, vous pique-niquez. Quelle bonne idée. Bonsoir.
Bonsoir.
Oh, à la campagne.
Antoine, mon chéri, je n'ai plus de cigarette.
Un an plus tard, il n'y a plus personne sur le quai. Charles s'étend sur le banc pour essayer de dormir. Mais ce n'est pas facile de dormir dehors. Le banc est raide, le bruit, les lumières.
Et au bout d'un moment, on n'a pas si chaud que cela.
Alors, de guerre lance, Charles s'assoit. Un homme d'à peu près 25 ans, vieux manteau marine pas très propre, cheveux et barbe noire en broussailles, visage maigre, yeux qui le sortent de la tête, ses mains tremblent légèrement et tient à la main une cigarette. L'homme s'assoit à côté de Charles. Salut.
Salut.
Je m'appelle Quentin.
Moi c'est Charles.
Tu n'es pas aubergé?
Non.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Je me suis engueulé avec mes vieux.
Si tu veux, je peux te
coucher chez moi cette nuit.
Charles hausse ses épaules.
Je veux bien, oui. Mais c'est où?
Pigalle.
On y va?
Oui.
Ils se lèvent tous deux du banc et sortent de la station de métro.
C'est au troisième étage d'un vieil immeuble crasseux.
Quentin le fait entrer. Grande pièce, avec au milieu un vieil électrophone à terre, mur sans tapisserie, une lampe qui peint un fil au plafond, amène le parquet blanc, poussiéreux, une vingtaine de jeunes assis en tailleur devant une canette de bière et paquet de cigarettes. Il ne faut pas attention aux arrivants. Quentin pousse Charles au milieu de la pièce. Assieds-toi où tu veux, et si tu as sommeil, tu peux dormir où tu es. Personne ne t'emmerdera. Une jeune fille, petite, maigre, les cheveux longs crêpés noirs, habillée d'une chemise blanche d'homme et d'un jean gris cendre, s'approche de Charles. Tu veux t'asseoir à côté de moi ? Charles fait oui de la tête, elle le prend par la main. Je m'appelle Sandrine, et toi ? Charles. Elle le met dans un coin de la pièce, un peu isolé des autres. Charlie, assieds-toi là. Il s'assoit à terre. Il s'assoit à ses côtés. Tu veux une clope ? Non, dit-il. Elle lui donne un baiser sur la joue. Ne sois pas triste, le monde où nous vivons ne vaut pas la peine. Tout ce qu'il faut pour en sortir. Tu en veux ? Quoi ? De ça ? Elle lui montre de l'herbe. Qu'est-ce que c'est ? De la bonne. Je n'ai jamais essayé. Il le faut, tiens. Avec un bout de papier journal, elle lui fait une cigarette. Tiens. Il la prend. Elle l'allume. Il n'aime pas tellement ça, mais ne veut pas le lui montrer. Une demi-heure plus tard, il se sent pas trop mal. Elle aussi a fumé. Il se sourit. Elle se penche à son cou et l'embrasse. Puis, le fait tomber sur elle, il sourit. Elle lui dit « J'ai envie, et toi ?»« Oui. » Elle quitte son jean et sa culotte. Puis, elle lui fait la même chose. Elle se met à mettre le sol, les jambes écartées. Une fois qu'ils se sont rhabillés, ils s'endorment l'un côté de l'autre. Le lendemain matin, Charles se réveille, courbaturé et froid. La fille est allée se coucher à côté d'un autre mec. Charles se lève. Quentin va vers lui. Tu as bien dormi ? Oui. Tu pars maintenant ? Il n'est que 8 heures. J'ai mes cours. Tu veux de la cam ? Non, merci. Si tu en veux, viens me voir. D'accord. et Charles sort de l'appartement. Sur le chemin du lycée, Charles décide de ne pas rentrer chez lui. Son corps ressent encore la douleur des coups de son père. En passant devant l'immeuble de Gilles, il le voit sortir. Gilles lui sourit. « Salut, salut Gilles, je t'accompagne jusqu'à ton lycée ?» Gilles accepte. « Gilles, j'ai envie de quitter Paris quelque temps. Cela te dit de m'accompagner ?» Gilles est surpris. Pourquoi est-ce que tu veux quitter Paris? Parce que j'en ai marre de tourner en rond. Tu veux aller où? Je ne sais pas. À Biarritz? Pourquoi à Biarritz? Je ne sais pas, comme ça. En réalité, Biarritz lui rappelle ses vacances lorsqu'il était enfant. Alors, tu viens avec moi? Je ne sais pas. Ça ne te plairait pas d'être seul avec moi? Si, bien sûr, mais... C'est les vacances de Pâques. Tu viens, tu préviens ta grand-mère ce soir et nous partons. Charles sourit. Gilles accepte. Le soir, après les cours, pendant que Gilles est allé prévenir sa grand-mère, Charles sonne chez Christine. Elle lui ouvre. Tiens, c'est toi? Entre. Il entre. Elle ferme la porte. Je croyais que tu étais fâché. Non? Il l'embrasse sur la joue, puis il va s'asseoir sur le rebord du lit. Je suis venu te dire au revoir. Oh, tu pars? Oui. Tu vas où? À Biarritz. Tu en as de la chance. J'ai faim, tu me fais des pâtes? Oui, je vais voir si j'en ai. Et elle va dans son coin cuisine. Qu'elle s'affaire à faire les pâtes, Charles prend un livre sur un rayon au-dessus du lit. Tourne les pages. En sort des billets de banque. Il les met dans sa poche. Une heure plus tard, il sort de chez Christine. Il est 21h. Il retrouve Gilles à la gare avec un sac de voyage. Ça s'est bien passé avec ta grand-mère? Oui, mais elle était un peu surprise de ce départ si rapide. La famille d'Anteuil est au salon. Le père fait les 100 pas. La mère inquiète le regarde faire. Le grand-père reste calme. Le père dit en haussant les épaules. Il reviendra bien. Et puis, il est major, ce saligaud. Le grand-père hausse ses épaules et dit.
Vous n'auriez pas dû être aussi sévère. À 18 ans, on supporte mal les punitions corporelles.
Et à 45, les insultes.
Le grand-père hausse ses épaules.
Vous ne le comprenez pas.
Après de nombreux arrêts dans les gares, ils sont arrivés à Biarritz à 8 heures. Ils n'ont pas pu dormir dans le train. Il faisait trop beau et chaud. Ils se décident de sortir de la gare, de prendre un café et un sandwich. C'est ce qu'ils font dans un café près de la gare. Sortant du café, Gilles demande « Qu'est-ce qu'on fait ?»« On va aller sur la plage, se trouver un coin tranquille pour dormir. » Ils n'ont pas assez d'argent pour se payer l'hôtel. La première nuit, ils couchent dans la salle d'attente de la gare. Vont à la plage, mangent des pizzas. Charles boit beaucoup de bière et est nerveux. C'est un enfant qui rêve d'indépendance. Et une fois qu'il l'a, cela l'inquiète. Il est comme un oiseau qui vit en cage et rêve de liberté, mais en a peur. Ils sont allongés sur la plage. Il fait doux, ils sont presque seuls. Gilles, qui voit Charles manchonner un brin d'herbe, en soupirant lui demande « Qu'est-ce qu'il y a, Charles ? Rien. Tu as voulu partir ? Pourquoi ? Tu peux me le dire ? Je suis ton ami ? J'ai une correction avec mon père parce que je l'ai traité de salopard. Tu l'aurais pas dû ? Mais il en est un, il trompe ma mère et la rend malade. » Chez lui, met la main sur son épaule. On doit le respect à ses parents, même s'ils sont des défauts. Il voit que Charles est triste et lui dit « Détends-toi, nous sommes en vacances. Tu trouveras une solution à tes problèmes. Puis ça ira mieux. Et quelle que soit cette solution, tu seras toujours mon ami. » Thank you. conversations y deviennent plus intimes. Charles lui parle de sa nuit chez Quentin.
Tu te rends compte? En une seule nuit, une fille, et j'ai fumé.
Oui. Oui, tu as dû te sentir libéré, être un homme. Mais ne fréquente pas trop ce genre de personne. Cela risque de t'arriver des ennuis. Ou même, ça ne peut pas te mener bien loin.
Tu as déjà fait avec une fille?
Demande Charles. Gilles rougit.
Non, le faire pour le faire, par bravade, cela ne m'intéresse pas.
Tu attends le grand amour pour le faire?
Oui.
Mais si tu n'as pas eu d'expérience, tu ne pourras pas le faire avec la personne que tu aimes.
Ils se sont tus. Ils regardent droit devant eux, la mer et l'horizon. Le soleil semble s'enfoncer dans l'eau. Pas de bruit, seulement le bruit des vagues.
Après trois nuits dans la salle d'attente de la gare, ils en ont marre. Charles se souvient qu'il y avait du temps de son enfance, un peu en retrait de Biarritz, une vieille villa au Second Empire abandonnée. Ils vont aller voir. Il la trouve. C'est une grande bâtisse toute blanche au fond d'un parc envahi par les ronces. Elle domine la mer. Pousse le portail rouillé et entre dans le parc.
La maison de la Belle au bois dormant, dit Gilles.
On ne peut pas dire plus vrai. Cette bâtisse a appartenu à une comtesse que son fiancé a délaissée le jour de ses noces. Alors de chagrin, elle est enfermée ici et ne voulait plus voir personne. Retrouvée morte chez elle, dans sa robe de mariée, elle avait 80 ans. Cela fait 50 ans qu'elle est morte, et les héritiers ne sont toujours pas venus voir la villa. Le chemin qui mène à la villa a été envahi par les ronces. En approchant de la villa, l'on voit qu'elle a l'air plus délabrée qu'on le croyait. De nombreuses fissures sur les murs, vitres cassées, rez-de-chaussée envahi par les ronces. Et pour les jeunes adolescents, cela donne un décor romantique. Ils montent le perron, poussent la porte d'entrée. Carrelage disloqué, envahi par l'herbe et les ronces. Au fond du hall, un grand escalier de pierre. Charles dit, montons. Nous trouverons certainement une pièce vivante. Les escaliers sont aussi envahis par les ronces.
On dirait le château de la bête, dit Gilles.
À l'étage, les pièces sont délabrées, vitres brisées. Les quelques meubles qui restent sont défoncés, des toiles d'araignée de partout. Il trouve tout de même une pièce où les vitres sont restées intactes. Charles la regarde bien et dit
un coup de balai et ce sera bon. C'est ce qu'ils feront. Enroulés dans leur pull, ils dormiront à même le sol. De vivre en dehors du monde, dans un endroit clos qui est irréel, les rapproche. Ils deviennent plus intimes. Charles se calme et est heureux. Passe une matinée dans la maison ou le jardin, à discuter ou à s'amuser. Charles, pour épater Gilles, fait le pitre. Des performances d'équilibre sur les balcons. Gilles en rit, mais a un peu peur. Lui n'oserait pas en faire autant. L'après-midi, ils vont à la plage et le soir, achètent à manger. Une nuit, qu'ils ne pouvaient pas dormir, ils sont allés prendre un bain de minuit. La mer est un peu forte, mais la lune lui donne des reflets d'argent éblouissants. Charles a voulu se baigner nu, alors Gilles aussi. Tu comprends ? Un bain de minuit doit se prendre nu. Jules s'est rendu compte que Charles est beaucoup plus musclé qu'il ne le paraît. Et Charles a vu avec plaisir que Gilles avait un corps encore enfant. Un jour qu'ils sont assis devant la maison, sur des chaises bancales, Gilles dit « Être bien, c'est vivre d'une façon simple et pure. » Charles lui répond « Oui, mais l'on peut vivre d'une façon simple et pure dans un endroit comme celui-là, mais pas à Paris. À Paris, c'est autre chose. » « Pas du tout. Cela dépend surtout de toi. Tu n'es pas obligé de subir ce qui t'entoure. » Ce n'est pas parce qu'il y a des boîtes que tu es obligé d'y aller. Oui, peut-être bien, mais ce n'est pas si simple, dit Charles. Les jours passent. Gilles dit qu'il est temps de rentrer, mais Charles fait la sourde oreille. Gilles insiste. Les familles vont s'inquiéter, et puis il y a les cours. Tu vas tout de même pas me laisser rentrer seul. Bon, on va rentrer. Le train dans l'après-midi. Et au fur et à mesure qu'ils approchent de Paris, Charles devient morose. Ils sont arrivés à Paris à 20h. Charles n'a pas envie de rentrer chez lui. Il a raccompagné Gilles. Avant qu'il entre dans son allée, Gilles demande Tu rentres chez toi, toi aussi? J'ai pas envie de rentrer chez mes parents. Rappelle-toi de ce que nous avons dit. Pour te donner du courage, souviens-toi de ce que nous avons fait. Charles soupire et dit « Oui, je vais essayer. » J'y lui tend la main et il entre. Charles traîne dans les rues au hasard, mais il se souvient de ce que lui a dit Gilles. Alors, pour être digne de lui, il décide de rentrer. Pas très fier, il sonne à la porte. Un domestique lui ouvre.
Monsieur Charles, que vos parents vont être heureux.
Oh, je t'en prie, Ferdinand, n'en rajoute pas. Il entre. Le domestique ferme la porte. Et crie.
Monsieur Charles est de retour.
« Salaud, t'aurais bien pu me laisser aller dans ma chambre !» Le père, suivi de la mère, descend des escaliers. Le père, arrivé vers son fils, le gifle.
« Pour t'apprendre à te comporter comme un voyou !»
La mère met la main sur l'épaule de son mari.
« Je t'en prie, Jules !»«
Comment ? Ce petit morveux vient de faire une fuguette !» Montez au salon.
C'est la voix du grand-père. Tous lèvent la tête et le voient en haut des escaliers, sa canne à la main, un costume noir.
Montez, je vous dis.
Ils montent tous. Voient arriver en haut.
Allons au salon.
Et ils suivent le grand-père.
Asseyons-nous. Charles, viens près de moi.
C'est ce que fait Charles.
Jules, tu devrais avoir honte de te comporter de cette façon devant les domestiques.
C'est moi qui ai tort maintenant.
Oui.
Puis le grand-père se tourne vers son petit-fils.
Tu es revenu pourquoi?
Pour le gîte et pour le couvert. Le père furieux se lève.
Petit saligaud.
Le grand-père met la mère sur l'épaule de Charles et lui dit
« Viens avec moi, on ne peut pas discuter avec eux. »
Ils se lèvent tous deux et sortent de la pièce. Jules les a regardés s'éloigner fou furieux. Le grand-père mène Charles dans son bureau. Une fois que la porte est fermée, Charles dit
« Je ne peux plus supporter mon père à cause de sa conduite vis-à-vis de ma mère et de moi. »
Écoute-moi bien, tu es un homme maintenant. Tu ne dois pas réagir envers ton père comme un enfant. Ce sont des enfants qui croient que leurs parents sont des dieux sans défaut. Il faut désormais que tu apprennes à aimer et à respecter les êtres en te disant que personne n'est parfait. Évite de juger les gens. Toi-même es-tu parfait ?
Charles sourit et dit « Non ». Le grand-père lui demande ce qu'il a fait. Charles lui dit, sauf la nuit chez Quentin,
« Tu n'as rien fait de vraiment mal. Sois sage avec Gilles. Lui, c'est un pur, un vrai. Il sera encore quelque temps comme cela. Mais ce n'est pas à toi, son ami, à lui faire le pas de l'autre côté. Bien au contraire, tu dois tout faire pour qu'il le reste. » C'est un crime de rendre impur ce qui est pur. Le malheur vient de là. Le petit a confiance en toi, tu comprends?
Charles se sent fier et heureux de ce que vient de lui dire son grand-père.
Allez, tu vas aller te coucher. Je vais parler à ton père et la vie reprendra comme avant.
Hein?
Va te coucher, mon petit.
Et la vie a repris comme avant. Personne ne parle plus de ce qui s'est passé. Charles et Gilles sortent souvent ensemble. Ils vont à des concerts ou se promènent simplement dans la rue. Il a raconté à Gilles ce qui s'est passé quand il est revenu.
Tu as un grand-père formidable.
Oui. Et il m'a dit qu'il fallait que je prenne soin de toi.
De moi ?
Mais ce n'est pas moi qui fais les fugues, c'est toi. Dans la nuit, dans son lit, le grand-père a eu de violentes douleurs dans la poitrine. Des difficultés à respirer et à avaler sa salive. Le matin, il se lève en sueur et décide d'aller voir son médecin sans le dire à sa famille. Après l'avoir ausculté, le médecin, qui est un homme grand, fort, aux cheveux blancs, lui dit « Je ne vois rien, c'est sans doute nerveux, mais je vais tout de même vous faire des radios et des analyses. » Une semaine plus tard, le grand-père rapporte au médecin les résultats. Une fois qu'il a lu les papiers, le docteur lui dit « Rien de bien grave, simplement une petite faiblesse du côté des poumons. Vous allez aller dans la clinique de mon ami le docteur Bayard à Neuilly. Il vous prescrira certainement quelques petites séances de rayons. » Je vais vous faire une lettre de recommandation. Grand-père n'a rien dit à personne et va toutes les semaines à Neuilly. Un soir, une fois qu'il a raccompagné Gilles, Charles, sur le chemin du retour qu'il ramène chez lui. « Salut, toi !» Il se retourne. C'est Quentin. « Alors, qu'est-ce que tu deviens ?»«
Rien. » »«
Tu es retourné chez papa ou maman ?»«
Oui, il le fallait bien. » »«
Tu viens chez moi ?»
Charles hésite.
« Ah, je vois. Tu dois rentrer bien sagement chez toi. »
Charles rougit.
« Non, je viens. À la bonne heure. »
Quentin, il y a toujours autant de monde. Charles retrouve la fille.
Salut, Charlie.
Salut.
Viens.
Elle le mène au même endroit que la dernière fois. Ils s'assoient en tailleur, l'un en face de l'autre.
Tu veux une clope ou de l'herbe?
Charles hésite. Elle sourit. Il rougit et dit.
De l'herbe?
Ce n'est pas qu'il en ait tellement envie, mais le sourire me corde la fille.
Une fois qu'elle est roulée deux cigarettes, elle lui en donne une.
Tu sais, je la paye. Tu veux me donner quelque chose?
Oui.
Combien?
200. Charles lui donne et il fume. Cette fois, ça lui fait du bien.
Une heure plus tard, il dort dans les bras de la fille, heureux et calme. Ils ont fait aussi l'amour.
Le lendemain matin, Charles a téléphoné dans un bar et dit à sa famille qu'il a passé une soirée chez ses copains pour potasser, qu'il n'a pas vu l'heure. Il était trop tard pour pouvoir rentrer, alors il a couché chez le copain. C'est sa mère qui a reçu l'appel téléphonique.
Elle le dit à son mari, qui est furieux. Il ne croit pas à cette histoire.
Tu t'imagines que je vais croire à cette histoire?
Calme-toi, de toute façon il est majeur.
Le soir, en raccompagnant Gilles chez lui, Charles, pour le séduire et cacher son penchant qu'il a pour lui, lui parle de ce qu'il a fait la nuit dernière.
« C'était génial, tu sais. Je semblais danser. Et la fille, oh là là,
j'aimerais tant que tu puisses connaître ça.
Viens avec moi ce soir. » »«
Non, j'aime mieux pas. J'aimerais mieux que toi, tu n'y ailles plus non plus. »
Charles, pour se prouver qu'il est un homme, et pour Gilles, continue à revoir Quentin et la fille une fois par semaine. Malheureusement, il est obligé de payer son herbe et par courtoisie celui de la fille. Il dépense beaucoup.
Un soir, au moment de payer, il voit que ses poches sont vides. La fille lui dit « Cherche bien !»
Non, je n'ai rien.
Merde, je vais le dire à Quentin.
Elle se lève et va vers Quentin.
Et le ramène vers Charles.
Alors, mon vieux, tu n'as plus un rond? Tu as consommé, il faut payer? Tu ne peux pas demander du fric à ton père?
Non.
Montre-moi ton portefeuille.
Charles lui donne. Quentin l'ouvre.
Il lit la carte d'identité et met le portefeuille dans sa poche.
Je te le rendrai quand tu m'auras payé.
Ou alors, je vais chez ton père.
Charles est rouge et baisse la tête. La fille dit à Quentin.
Tu ne peux pas l'aider à trouver de l'argent?
Quentin soupire.
Bon, je veux bien. C'est bien pour toi.
Écoute, Charles, de je ne sais quoi. Je vais te donner de l'herbe.
Tu vas te débrouiller pour la vendre et te faire du fric.
Comment?
Dans ton lycée? Tu proposes à tes copains 10 bâtons que je te vendrai à 200.
Mais attention, je t'ai à l'œil et j'ai ton portefeuille.
C'est d'accord?
Oui, puisqu'il le faut.
Quentin lui a donné l'herbe. Charles s'est retrouvé dans la rue, tout penaud. Il l'a mis dans son cartable.
Comment vais-je faire pour vendre ça?
Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Sanctifié, dont c'était la deuxième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.